est 23h à Paris, 21h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, le ton monte entre l'Inde et le Pakistan après l'attentat dans le Cachemire indien, au moins 28 morts. New Delhi accuse Islamabad d'être responsable. Les deux pays se répondent coup pour coup. Suspension des visas, expulsion de diplomates, fermeture de frontières. On fait le point en début de journal. Volodymyr Zelensky écourte sa visite en Afrique du Sud après de nouvelles attaques russes. Le bilan monte à 12 morts et plus de 90 blessés. Le président ukrainien incite ses partenaires à durcir le ton face à Moscou. Dans ce journal également, cette attaque mortelle dans un établissement nantais dans l'ouest de la France. Une élève a été tuée et trois autres ont été blessés dans une attaque au couteau. Et puis nous serons en Corée du Sud où le sort s'acharne sur la présidence. Moon Jae-in, le seul président à être épargné par les ennuis judiciaires, a été inculpé pour corruption. Bras de fer diplomatique entre New Delhi et Islamabad. Suspension des visas, expulsion de diplomates et fermeture de frontières. La tension monte après une attaque contre des touristes dans le Cachemire indien. Au moins 28 morts, c'est l'attentat contre des civils le plus meurtrier en Inde depuis 2008. L'Inde semble pointer du doigt le Pakistan, tandis qu'Islamabad nie toute responsabilité. En colère, des centaines de Pakistanais ont manifesté dans plusieurs villes du pays. La situation se crispe entre les deux pays et ce n'est pas la première fois. Les précisions de Combastin à Bangalore.
En 2019, Narendra Modi avait bombardé le Pakistan après une attaque contre des soldats indiens dans le Cachemire. C'est à nouveau vers le voisin musulman que les coups partent. Un traité fluvial entre les deux pays a été suspendu, la frontière principale a été fermée et plusieurs diplomates pakistanais ont été renvoyés. S'adressant à la foule dans le Bihar, Narendra Modi s'est voulu grave et a utilisé l'anglais pour s'adresser au monde.
Les terroristes ont tué des innocents, ils ont ciblé les plus pauvres. Il y a des centaines de milliers de nos compatriotes en souffrance. Je le dis au monde entier, l'Inde identifiera, traquera et punira tous les terroristes et leurs complices. Nous les pourchasserons jusqu'aux confins de la Terre.
Deux terroristes ont déjà été tués en Inde, mais jusqu'où se poursuivra cette traque? Les services secrets indiens affirment que le groupe qui a frappé le Cachemire est hébergé au Pakistan. Islamabad dénonce des accusations sans fondement. En attendant, la tension monte en Inde. De nombreux étudiants originaires du Cachemire indien ont été victimes de harcèlement et d'intimidation de la part des autorités après l'attentat. Plusieurs groupes extrémistes hindous ont aussi émis des menaces de mort à l'égard des musulmans indiens. Combastin, Bangalore, RFI.
Direction le Proche-Orient, au moins 55 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes ce jeudi. Israël a menacé de lancer une offensive plus vaste dans l'enclave si les otages n'étaient pas libérés du territoire palestinien. De son côté, l'Organisation de libération de la Palestine a approuvé la création d'un poste de vice-président, ce qui ouvre la voie à la succession du président palestinien Mahmoud Abbas. L'actualité dans la région, c'est aussi l'Iran qui se dit prêt à se rendre à Berlin, Paris et Londres pour discuter du nucléaire iranien. Téhéran discute avec Washington depuis le 12 avril sous médiation omanaise. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera d'ailleurs les Iraniens samedi à Oman, la troisième rencontre en quelques semaines. De leur côté, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'ont jusque-là pas été directement impliqués dans les nouvelles tractations. Mais Téhéran aimerait discuter avec les trois pays européens car ils ont la possibilité de réimposer automatiquement les sanctions de l'ONU contre Téhéran pour les empêcher de se doter de l'arme nucléaire. RFI, minuit 4 à Kiev. Volodymyr Zelensky rentre d'Afrique du Sud en urgence après l'attaque russe sur la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan monte à 12 morts et plus de 90 blessés. Le président ukrainien assure qu'il fera tout ce que ses partenaires exigent pour obtenir un cessez-le-feu. Mais il regrette le manque de pression internationale sur la Russie. On l'écoute.
La Russie comprend que l'Ukraine est debout, qu'elle défend ses droits et elle exerce une pression sur notre peuple. Elle exerce également une pression sur les États-Unis. C'est une autre raison qui explique l'attaque d'aujourd'hui. Je ne vois aucune pression forte sur la Russie, ni aucun nouveau train de sanctions contre l'agression russe.
Volodymyr Zelensky qui affirme qu'un missile nord-coréen a été utilisé dans cette attaque. Des frappes qui interviennent pendant que Washington tente de convaincre Moscou et Kiev pour un accord, mais le président ukrainien ne veut pas céder la Crimée à la Russie comme le souhaitent les États-Unis. Emmanuel Macron estime que la question du statut de la Crimée ne se posait pas maintenant, tout en réaffirmant un cessez-le-feu inconditionnel. De son côté, Donald Trump a déclaré « Vladimir, arrête » après les attaques russes. Le conflit en Ukraine qui incite l'Europe à se réarmer, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est entretenu jeudi à Londres avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Au menu des discussions, un accord susceptible de permettre la participation du Royaume-Uni à un programme militaire européen. Le dirigeant travailliste espère conclure un pacte sur la sécurité et la défense avec Bruxelles d'ici un sommet prévu le 19 mai à Londres. En France, une élève a été tuée et trois autres ont été blessés dans une attaque au couteau dans le collège-lycée privé Notre-Dame de Toute-Aide. C'est à Nantes, dans l'ouest de la France. Le suspect a été hospitalisé après un examen par un psychiatre. Les ministres de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, et de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sont arrivés sur place dans l'après-midi. Le récit de Sylvie Coffi.
Le drame s'est donc passé au sein de Notre-Dame de Toute-Aide, un établissement privé catholique qui accueille plus de 2000 élèves de l'école maternelle au lycée. Il était midi et demi lorsqu'un élève de seconde fait irruption dans deux classes différentes, armé de deux couteaux dont un de chasse. Il s'attaque à quatre de ses camarades. Le suspect est décrit par certains élèves comme dépressif. Peu avant son geste, il avait posté un mail de 13 pages à toutes les classes, de la sixième à la terminale, pour expliquer ses problèmes. Maîtrisé par un responsable de l'établissement, il a ensuite été interpellé par les policiers. Sollicité par l'agence France-Presse, le parquet national antiterroriste a indiqué être en évaluation pour savoir s'il se saisissait de l'enquête. Le procureur de Nantes, Antoine Leroy, a reporté la conférence de presse qui était initialement prévue. Des cas d'une telle violence au sein d'un établissement scolaire sont très rares en France. Ces derniers mois, des agressions meurtrières entre élèves se sont produites, mais aux abords des collèges et lycées.
J'adresse mes pensées émues aux familles, aux lycéens et à toute la communauté éducative. Les mots d'Emmanuel Macron, le président français qui achève sa tournée dans l'océan Indien. Il était en visite à Madagascar ce jeudi et a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens. L'objectif est de travailler sur les atrocités commises à l'époque par l'armée française lors de l'insurrection de 1947. Des dizaines de milliers de malgaches avaient été tués. Emmanuel Macron veut créer les conditions du pardon pour la colonisation de Madagascar en restituant également des restes humains emblématiques de ces pages sanglantes et tragiques. En Côte d'Ivoire, le PDCI, principal parti d'opposition, peine à mobiliser après l'exclusion de son candidat. Près de 200 personnes se sont rassemblées à Abidjan pour dénoncer la radiation de la liste électorale de Tidjane Thiam pour la présidentielle d'octobre. La justice déclare que l'ancien banquier a perdu la nationalité en devenant français en 1987. Cette décision n'est pas susceptible de recours et cette décision tombe également une semaine après l'investiture de Tidjane Thiam pour défendre les couleurs du PDCI. Direction la Corée du Sud, où la malédiction présidentielle continue. Moon Jae-in était jusqu'ici le seul ancien président à avoir été épargné par les ennuis judiciaires, mais il a été inculpé pour corruption ce jeudi. L'ancien président de centre-gauche est accusé d'avoir facilité l'emploi de son gendre. Un énième épisode dans le chaos politique sud-coréen depuis la déclaration avortée de la loi martiale du président Yoon, Nicolas Roca.
C'était une figure de probité, le seul ancien chef d'État sud-coréen encore en vie à avoir évité les ennuis avec la justice. Finalement, Moon Jae-in devra répondre à des accusations de corruption. Le parquet estime que le gendre du président de centre-gauche a obtenu son poste illégalement. Il a été nommé directeur général de la compagnie aérienne Thai Easter Jet, entreprise gérée par un ancien député du Parti démocrate, la formation politique de Moon Jae-in. Selon les procureurs, les 132 000 euros de salaire perçus seraient en réalité des pots de vin à destination de l'ex-président. Cela a permis à sa fille et à son gendre de vivre sans le soutien financier de ses parents. Les accusations de corruption sont prises très au sérieux en Corée du Sud et plusieurs chefs d'État en ont fait les frais, à l'image d'Im Yong-bak et de Park Geun-hye, deux présidents conservateurs qui ont passé plusieurs années derrière les barreaux pour ce motif. Yoon Suk-yeol, l'ancien président accusé d'insurrection pour avoir proclamé la loi martiale en décembre, est lui jugé en ce moment et risque la prison à vie.
Et puis avant de fermer ce journal, quelques mots de football. Demi-finale, retour de la Coupe d'Italie. Victoire de Bologne 2-1 contre Empoli. Ils affronteront l'AC Milan en finale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.